Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 12h30 et 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion. Vous le savez, avec les auditeurs, l'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une. Le casse-tête du protocole sanitaire à l'école, et oui encore, les agressions contre les élus qui se multiplient. 300 plaintes pour menaces de mort déposées depuis juillet, dit ce matin sur RTL Gérald Darmanin. Et puis on ira en Grande-Bretagne, où pour faire face à la hausse des prix de l'électricité, on conseille désormais aux Anglais de faire un câlin à leur chat pour se réchauffer. C'est très sérieux, vous verrez.
Et je l'espère. Deux débats aujourd'hui. Vous comprendrez mieux pourquoi il faut régulièrement ouvrir les fenêtres. RTL a mesuré la ventilation des lieux que nous fréquentons. Et puis à 12h50, donc Wuhan, il y a 2 ans pile, le Covid faisait son premier mort là-bas.
Notre question du jour sur RTL.fr. 3 autotests pour les élèves cas contact à l'école. Le protocole sanitaire est-il plus simple? C'était en tout cas l'objectif du gouvernement. Eh bien, vous dites non à 69%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour, Peggy.
Bonjour, Amandine.
Plus d'alerte rouge dans le sud-ouest.
En effet, plus de rouge, mais 8 départements du sud-ouest restent en vigilance orange crue. Aujourd'hui, côté ciel, retour d'un temps sec sur l'ensemble du pays avec du soleil. Alors, sauf là où des grisailles persistent encore, notamment vers le Lyonnais, l'Île-de-France, le nord-est. Et le temps reste couvert entre la Bretagne et le nord avec un peu de brume. Les températures un peu fraîches par endroit au nord, de 2 à Mulhouse à 15 à Nice, 4 à Paris et Lyon et 12 à Bordeaux.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et on commence donc avec ce nouveau micmac à l'école. 3e protocole sanitaire en 3 jours. Jean Castex a annoncé hier soir une simplification. Problème, ce midi, on a toujours du mal à y voir clair. Illustration à la sortie de l'école tout à l'heure à Metz.
On peut changer le protocole tous les 3-4 jours. Des fois, on ne sait plus trop où on en est. Déjà, ce que je ne comprends pas très bien, c'est le test à J0. Parce qu'on sait très bien que le virus a un temps d'incubation qui peut aller de J+2 à J+5. Donc déjà, je ne vois pas très bien l'intérêt du test à J0. Et ensuite, bon, les autotests, c'est bien gentil, mais hier j'ai fait 3 pharmacies, il n'y en a aucune qui en a. Donc je vois pas trop comment ce protocole peut être appliqué en fait.
J'en ai compris qu'on souhaitait garder les écoles ouvertes et sans trop gêner les parents. Donc le nouveau protocole permet de réduire la gêne des parents. Je ne suis pas sûre que ça réglera le problème de la circulation du virus.
Des parents quelque peu dubitatifs, on va dire ça comme ça au micro RTL de Dimitri Ramelot. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Aidez-nous à y voir plus clair. Cette histoire d'attestation, d'abord l'attestation sur l'honneur que doivent fournir les parents, on doit la faire quand?
Alors il faut la remettre à l'école après le premier autotest. Pas besoin de recommencer après les autres autotests à J+2 et J+4. L'éducation nationale a décidé de faire totalement confiance aux parents.
Les autotests, c'est désormais la règle. On entendait ce papa qui s'inquiétait. On les trouve où?
À la pharmacie. Alors, celles qui n'en ont plus doivent être bientôt réapprovisionnées. 11 millions d'autotests en pharmacie cette semaine, promet le gouvernement. Les parents n'auront rien à payer. L'école leur fournira un formulaire qui indiquera que leur enfant est cas contact pour aller chercher donc les autotests gratuits. Formulaire que l'éducation nationale est en train de préparer. Il doit être prêt d'ici à vendredi, quand cette nouvelle procédure des 3 autotests entrera en vigueur.
Vendredi donc seulement. Nous sommes mardi et d'ici là, qu'est-ce qu'il se passe?
Eh bien, on est encore pour l'instant sur le protocole où il faut un test antigénique ou PCR suivi de 2 autotests. Ben si. Et ce qui peut être mis en place en revanche aujourd'hui, alors aujourd'hui, ce qui peut être mis en place par exemple dans les écoles, c'est la fin de l'obligation pour les parents d'enfants cas contact de venir les chercher dès qu'ils sont prévenus. Alors ça peut être à partir d'aujourd'hui la nouvelle procédure.
Ce sera vendredi. Mais c'est-à-dire que le protocole d'hier soir n'est pas valable aujourd'hui?
Non, ce sera vendredi.
Et mais comme, il n'a
le,
pas dit, ça,
ben voilà, comme le calendrier était pas très très clair hier soir, présenté par le Premier ministre, dans les écoles ce matin, des chefs d'établissement ont vu arriver des parents qui voulaient déjà le formulaire pour les 3 autotests gratuits, mais ça, ce sera vendredi.
Merci beaucoup Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL, ça fera sans doute réagir les auditeurs au 3210. Avant cela, voyons ce qu'en disent les médecins, satisfaits ou pas sur le fond, sur le plan sanitaire. Écoutez, Jonathan Freund, il est médecin urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Je ne suis pas sûr que tous les parents feront les 3 autotests nécessaires. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre le coton-tige là où il faut, embêter leurs enfants alors qu'ils sont seuls face à eux, qu'ils n'ont pas du tout envie que leur enfant sèche l'école pendant une semaine? La fiabilité de ce test-là sera un peu limite. Un test négatif ou une attestation d'un test négatif ne sera pas du tout une preuve de la non-contagiosité d'un enfant. Je pense que c'est quelque chose qui est fait pour dire qu'on fait quelque chose. Je suis pas sûr que cette mesure sera très efficace. La politique actuelle, c'est de ne pas tout faire pour limiter la circulation du virus. On a acté le fait qu'on va laisser l'épidémie circuler.
Les médecins sceptiques aussi, donc, par ce protocole, des propos recueillis pour RTL par Agathe Landais. Au-delà de l'aspect sanitaire, le politique. Bonjour, William Galibert.
Bonjour.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème, Jean-Michel Blanquer?
Je dirais qu'il y a les enseignants d'un côté, inquiets, fatigués, un peu perdus. De l'autre, il y a les parents, inquiets, fatigués, un peu perdus. Et au milieu de tout ça, il y a donc Jean-Michel Blanquer. Le ministre encaisse les coups et les critiques. Ce matin, sur un plateau télé, il a joué l'humilité, la compréhension. Il dit « J'aimerais beaucoup qu'il en soit autrement, mais c'est à moi d'endosser ces difficultés, je l'assume. » Il assume surtout ce choix partagé avec Emmanuel Macron de maintenir les écoles ouvertes coûte que coûte. Mais les difficultés de communication sont criantes, hein, et vous venez d'en parler. Et hier soir, c'est donc Jean Castex, le Premier ministre, qui a fait les annonces à la place de son ministre. Des proches du président décrivent un Jean-Michel Blanquer frustré. L'un d'eux raconte « Il est empêtré dans le Covid, ça l'empêche de jouer le rôle qu'il voudrait. Il a très envie de peser au-delà de l'éducation, mais il n'y arrive pas. » Jean-Michel Blanquer lui préfère voir le verre à moitié plein. Il l'a dit tout à l'heure, le bout du tunnel est proche.
Mais ce qui est incroyable, William, c'est que hier soir, c'est le Premier ministre qui vient parler simplement 4 minutes sur France 2 pour dire que le protocole a changé, qu'il n'a pas changé ce matin. Il peut envoyer ou un ministre ou même faire un tweet. Le Premier ministre qui se déplace à la télévision pour
l'idée,
faire ça.
Nous reprenons le contrôle, je reprends et j'essaye d'éclaircir les choses pour tout le monde. Visiblement, c'était pas tout à fait le cas puisque le calendrier n'était lui-même pas très bien détaillé hier soir.
Merci beaucoup William. Ce qui est sûr, c'est que les syndicats d'enseignants ont décidé de maintenir leur journée de grève. Ce sera jeudi, un mouvement qui risque d'être très suivi. Aujourd'hui, ce sont les soignants qui sont dans la rue, des manifestations un peu partout en France, à Paris. Le cortège doit partir tout à l'heure de Port-Royal à 13h.
Et c'est dans ce contexte, et alors que les débats autour du pass vaccinal commencent cet après-midi au Sénat, que les agressions se multiplient.
Agressions contre les élus, 300, disait ce matin sur RTL Gérald Darmanin.
On a aujourd'hui plus de 300 dépôts de plaintes qui ont été faits par des élus nationaux ou des élus qui passent dans les médias, on pourrait appeler ça comme ça, parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Vous avez vu que j'ai pris des instructions et des protections. Le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, évidemment, en ce moment, est protégé, par exemple. Mais nous constatons une augmentation extrêmement forte des menaces et donc des violences contre les élus.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur RTL ce matin. Parmi ces 300 plaintes pour menaces de mort, il y a celle de Pascal Bois, député LREM de l'Oise. Il a été réveillé en pleine nuit par les pompiers le 29 décembre dernier. Sa voiture et son garage étaient en flammes, Mourad Djabari.
Oui, la porte de son garage est encore noircie par l'incendie. Elle cache une charpente éventrée, calcinée. Pascal Bois observe sidéré les dégâts et le ciel à travers le toit.
On se met dans l'effroi et puis surtout qu'un pompier est venu nous rapporter qu'il y avait des inscriptions, des tags sur le mur extérieur.
On peut aller voir ces inscriptions ?
Oui, bien sûr. Et ça corroborait avec ce que je pensais.
Votez non, écrit en noir. Ça va péter, écrit en rouge. À ce moment-là, qu'est-ce que vous dites ? C'est signé, entre guillemets ?
Voilà, c'est un attentat. Puisque même derrière, il y a une revendication et on s'attaque presque à notre vie. J'avais eu des menaces au mois de novembre. Nous avions reçu une lettre d'intimidation avec une balle. Bon, je me disais, ça peut arriver, mais je n'allais pas jusqu'à me dire, ça va arriver.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur pour vous, pour votre famille ?
Naturellement, il y a des craintes.
Et quand vous entendez le président Emmanuel Macron vouloir emmerder ces anti-vaccins ?
Je tiens aussi quand même à dire que le terme « emmerder » serait d'une violence inouï, ce que j'ai subi, on va qualifier ça comment ? Là, c'est de la violence véritablement concrète. Et elle, celle-ci, oui, elle est inouïe.
Et Pascal Bois n'a jamais douté. Bien au contraire, il est encore plus déterminé pour ce pass vaccinal qu'il juge aujourd'hui indispensable.
Reportage signé Mourad Djabari pour RTL. Une nouvelle audience aujourd'hui pour Cédric Jubilar. La cour d'appel de Toulouse examine en ce moment même sa nouvelle demande de remise en liberté. Et puis à un mois pile du premier tour de la présidentielle.
À trois mois.
À trois mois, pardon.
Mais c'est vrai qu'on a envie d'y aller vite en même temps.
Éric Zemmour, mais c'est bien que vous êtes attentif. Éric Zemmour présentait hier son programme pour l'école. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
Une école comme avant.
Oui, vous voyez le film Les Choristes ? Bah, c'est à peu près ça, l'école rêvée d'Éric Zemmour, sans Gérard Jugnot à la chorale, mais presque, avec l'uniforme et les cours de musique. Alors faisons un petit peu de politique fiction. Si Éric Zemmour devenait président, ce serait donc le retour de la blouse à l'école primaire, du CP à la 6e. À l'école, il n'y aurait plus d'enseignement de l'anglais, juste les savoirs fondamentaux, dit-il, lire, lire, écrire, compter. Mmh. On échappe aux cours de cuisine et à ceux de mécanique, mais c'est pas très très loin. Au collège, ce serait la fin des cours du collège unique, mis en place en 75, à la place des classes de niveau, c'est-à-dire les bons avec les bons, les mauvais avec les mauvais. La lutte contre les inégalités ne sera plus une priorité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est du Éric Zemmour dans le texte. Il l'a confié devant des journalistes. La priorité, c'est la transmission des savoirs. Et quant au lycée, fini la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer, ce serait le retour des filières S, ES ou L. Et alors Pascal, si vous avez des problèmes de comportement, c'est simple, avec Éric Zemmour, direction l'internat.
Ben, ça marchait hein, ce système-là, les enfants savaient lire, écrire, compter à l'époque, donc c'est vrai que l'école aujourd'hui elle est en difficulté, donc pourquoi pas, ce sera les électeurs qui décideront.
Thomas Després du service politique de RTL. Autre sujet qui sera sans doute bien présent dans cette campagne présidentielle, c'est bien sûr la question du pouvoir d'achat, la hausse notamment des prix de l'énergie. Alors la question se pose partout en Europe et au Royaume-Uni. Pour faire face, l'un des principaux opérateurs conseille désormais aux usagers de faire un câlin à leur chat pour se réchauffer. Oui. Forcément, ça a provoqué un tollé outre-Manche, Marie Billon.
Alors le chat, c'est un exemple parmi d'autres. Ça peut être un chien. Et si on n'a pas d'animal de compagnie, pourquoi ne pas prendre dans ses bras quelqu'un dans la maisonnée? C'est un peu délicat quand on vit en colocation. Mais le but, c'est le même. C'est de profiter de la chaleur d'un autre être vivant pour éviter d'augmenter le chauffage. Et si on vit seul, pas de panique, dit le blog du fournisseur. Manger des gruots, ces céréales qu'on chauffe à la casserole ou bien au micro-ondes, c'est long à digérer, donc ça tient chaud longtemps. Autre astuce, chaudement recommandée, gardez votre four ouvert après avoir fait la cuisine. Mais attention que le chat ou le chien câliné n'aille pas s'y enfourner. Précise quand même le blog. Et puis pour les plus courageux, organiser un concours de hula hoops avec les enfants ou bien juste faire de l'exercice. Tous ces conseils, y compris celui d'empiler les pulls, ont été très mal accueillis par les Britanniques qui ont vu le prix de l'énergie augmenter en flèche. Il pourrait même avoir doublé d'ici avril. Le fournisseur a d'ailleurs retiré l'article et a présenté ses chaudes excuses.
Effectivement, ça tombait plutôt bien. Merci beaucoup Marie Billon en direct de Londres pour RTL.
Dans une seconde, nos deux sujets du jour, on comprendra. On va commencer par la ventilation dans les lieux que vous fréquentez. Vous allez comprendre pourquoi il faut régulièrement ouvrir les fenêtres. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Contre la transmission, pensons aération. Oui, quand on parle,
régulièrement, on rit, 10 minutes toutes les heures. Voilà des conseils martelés depuis plusieurs mois maintenant par les médecins face au Covid. Alors est-ce vraiment efficace? Les espaces clos sont-ils vraiment un risque? C'est le premier débat d'RTL Midi. RTL qui a mesuré l'aération des lieux que nous fréquentons. Bonjour Gauthier Delombugard.
Bonjour à tous.
C'est vous qui avez mené cette expérimentation pour RTL grâce à un boîtier, un capteur de CO2. Où est-ce qu'on peut l'acheter?
D'abord sur Internet, c'est le plus facile pour un appareil de qualité. Il faut débourser au moins 100 €. Celui que nous avons acheté à RTL nous a coûté 120 €.
Et ça sert à quoi?
Eh bien, ce petit boîtier va nous permettre de calculer le taux de CO2 dans l'air. Plus le taux est élevé, plus la pièce est mal ventilée.
Et le rapport avec le Covid?
Alors, le Covid se transmet notamment par aérosol. Lorsque nous respirons, nous parlons, nous produisons des micro-gouttelettes potentiellement chargées en virus. Si la pièce est mal ventilée, ces micro-gouttelettes peuvent rester en suspension dans l'air pendant plusieurs heures. Une personne positive risque alors de contaminer celle qui l'entoure.
Quels sont les seuils à respecter?
Dans les lieux où le port du masque est exigé, les scientifiques préconisent un taux de CO2 inférieur à 800 ppm. PPM, partie par million, c'est l'unité de mesure. Pour être clair, ça veut dire qu'au-dessus de ce seuil, le masque chirurgical ne vous protège plus. Et puis ce taux doit se situer en dessous de 600, là où l'on ne porte pas le masque.
Alors, vous avez donc testé ce petit boîtier dans votre vie quotidienne. Racontez-nous, première étape, les courses.
Absolument, je vous propose de me suivre dans cette grande surface.
Et donc j'arrive dans ce rayon un petit peu fréquenté en hiver, le rayon des soupes et des conserves. On va prendre la mesure 527 PPM. Alors, il y a du monde dans ce rayon, mais on explique ce chiffre parce qu'on est dans une très grande surface, très aérée et donc est très ventilée, ce qui fait que le risque de propagation du virus dans cette grande surface est donc plus faible.
Je quitte le centre commercial avec mes cabas, de quoi préparer un bon repas entre amis.
Ça va ?
Nous sommes quatre dans le salon d'une vingtaine de mètres carrés. Au bout de 20 minutes, le capteur affiche 1431 ppm.
C'est une augmentation spectaculaire.
Nous décidons alors d'aérer la pièce. Et là, au bout de 3 minutes seulement...
Nous sommes à 828 ppm. Nous revenons dans la norme.
Et on va passer même en dessous 800.
Cette machine, je trouve, du coup, se permet de se rendre compte que c'est important d'aérer. Chose dont je ne me rendais absolument pas compte au quotidien.
Vous êtes allé ensuite chercher votre fils à la crèche.
Et là aussi, les chiffres sont édifiants. Une vingtaine de petits de 18 mois passent plusieurs heures dans cette salle spacieuse avec 4 éducatrices.
Porte ouverte.
papa.
En fin de journée, 1650 ppm. S'affiche sur l'écran bleu de mon petit appareil. Les deux éducatrices présentes ce soir-là ne sont pas étonnées. Avec le froid, nous ne pouvons pas aérer.
Au revoir.
Au restaurant, dans un bar, dans un bureau de poste, là aussi les résultats sont très mauvais. Ces lieux sont donc très mal ventilés.
On rappelle, la limite, elle était à 800 avec le port d'un masque. Est-ce que c'est mieux dans les transports ?
Alors, dans le métro, lorsque l'affluence est moyenne, tout va bien. Dans cette rame de la ligne 9, par exemple, le capteur affiche 768 ppm. C'est beaucoup plus compliqué dans le TGV. J'embarque dans le Paris-Lille.
Bonjour, mesdames.
Avant
et
le départ,
messieurs.
Nous sommes sous le seuil recommandé, mais le wagon se remplit, la moitié des sièges sont occupés.
Depuis lundi, se restaurer à bord est strictement interdit.
Et au bout de 30 minutes, le taux atteint 1006 ppm. Cette voiture est donc là aussi très mal ventilée. Pourtant, ma voisine termine son pain au chocolat. Un jeune porte le masque sous le nez.
C'est très mal ventilé, il y a des gens qui retirent leur masque pour mieux respirer.
Est-ce que vous, ça vous étonne de voir que c'est très mal ventilé ici ?
Mais évidemment que non. Après, s'il faut ne pas sortir de chez soi, avoir peur tout le temps, j'ai pas envie de tomber dans une psychose, j'ai pas envie de me balader avec un capteur. Voilà, je sais les endroits qui sont plus à risque, je tremble pas avant de prendre le train.
On a donc transmis ces chiffres à la SNCF. La sécurité des voyageurs et des personnels est la priorité absolue, nous répond la compagnie ferroviaire. La SNCF nous assure aussi que des moyens de filtrage et de renouvellement de l'air fonctionnent en permanence dans les trains.
C'est inquiétant, tous ces chiffres.
Bah, ça dépend. Vous l'avez entendu dans mon appartement, il m'a suffi d'ouvrir la fenêtre 2 minutes à peine, voire 3, pour revenir dans la norme. Mais dans certains lieux, il y a des raisons de s'inquiéter. Le docteur Hélène Rossino est spécialiste en santé publique.
Le restaurant, personne n'a de masque. Donc, si les fenêtres ne sont pas ouvertes, les portes ne sont pas ouvertes, ça veut dire que globalement, l'air stagne et que les particules s'accumulent. Pour moi, ça fait partie des endroits qui sont malheureusement les plus à risque pour revoir non seulement la fréquence de l'aération et envisager si c'est pas possible de mieux aérer des purificateurs d'air et pas. Les TGV, c'est très compliqué. Leur ventilation n'est pas capable de renouveler l'air au minimum 6 fois par heure. Dans ces cas-là, je pense que le FFP2 est quand même beaucoup plus intéressant.
Hélène Rossino pousse notamment les collectivités, les entreprises à utiliser les capteurs de CO2.
Le capteur de CO2, il sert surtout à étalonner, à faire le test plusieurs fois sur plusieurs jours d'affilée. Puis vous saurez très vite que dans tel lieu, avec telle concentration de personnes, eh bien dans ces cas-là, il faudra aérer toutes les 10 ou 15 minutes. Le capteur de CO2, il n'est pas fait pour être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est là pour vous donner une idée en moyenne de tous les combien il faut aérer.
Pour plus de conseils, Hélène Rossino renvoie au site nousaérons.fr, créé notamment par des médecins et des scientifiques.
Démonstration faite en tout cas. Merci à vous Gauthier de Lombugard pour ces explications. C'est clair.
C'est très clair et je rappelle qu'on peut l'acheter, vous l'avez dit, sur Internet, que ça vous a coûté 120 euros. On met capteur de CO2 si on veut et puis on peut se... Bah, c'est cher quand même, hein, 120 euros, c'est pas donné. Mais si vous voulez savoir précisément les ppm dans votre appartement, vous l'achetez.
Exactement. Il y a une technologie particulière aussi, mais vous pouvez aller sur le site nousaérons.fr, il y a tous les conseils.
Eh bien, merci. Deuxième sujet, Vouran, dans une seconde. C'est là que tout a commencé. Il y a 2 ans pile, le Covid faisait son premier mort. On en parle dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
En Chine, l'épidémie de pneumonie qui sévit a fait un premier mort. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires. Pékin surveille de très près cette maladie qui serait causée par un nouveau virus de la même famille que le SRAS.
Ça, c'était il y a 2 ans pile. Le 11 janvier 2020, sur RTL, la Chine annonçait un premier décès lié au Covid. Virus qu'on appelait, vous l'avez entendu, le virus chinois. À l'époque, on est loin, très loin même d'imaginer la suite. La preuve, avec ces propos d'Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, nous sommes le 24 janvier 2020.
Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible.
Le même jour, 24 janvier 2020, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, dit ceci.
Le système de santé français est prêt.
La suite, Pascal ? On la connaît. Alors 2 ans après, RTL Midi a décidé de retourner là où tout a commencé, à Wuhan. Nous avons joint tout à l'heure Stéphane Spetz. Il est directeur de l'école française de Wuhan. Son témoignage écouté est assez stupéfiant.
La vie ressemble à la vie d'avant. En fait, c'est assez curieux et peut-être que c'est difficile à croire depuis la France. Mais à Wuhan, le virus, à Wuhan et dans toute la Chine, le virus circule très peu à l'école. On a notre protocole sanitaire toujours, hein, avec des prises de température bicotidienne, avec le port du masque dans les communs. Mais à part ça, on accueille les élèves sans aucun souci et sans masque en salle de classe. Ça fait un an et demi qu'on n'a pas fermé l'établissement et qu'on a pu accueillir 100% des élèves avec 0 cas de Covid. Dans la rue, les gens portent le masque parce que culturellement, les Chinois l'acceptent peut-être plus facilement. C'est aussi des gens qui ont été traumatisés par la pandémie et les plus de 70 jours d'enfermement tout au début. Mais le vaccin n'est pas... Donc c'est le vaccin chinois, c'est le seul qui est reconnu en Chine. Il n'est pas obligatoire pour autant.
Vous n'avez pas besoin de passe pour aller au restaurant ou de choses comme ça ?
Non, par moment, on nous demande de montrer notre code QR, mais le code QR n'est pas lié au fait d'avoir été vacciné ou non. Notre code QR est vert, généralement, tant qu'on n'est pas allé dans une zone dite à risque. Et une zone devient à risque 14 jours avant et 14 jours après qu'un cas de Covid ait été détecté. Ah oui, le 1er octobre est férié en Chine et il y a une semaine de vacances nationales et nous on avait décidé d'aller en Mongolie intérieure et on est allé à un endroit où 5 jours après nous, une personne qui a contracté le Covid-19 est apparue. Et donc les 14 jours avant et les 14 jours après que cette personne soit passée à cet endroit-là détectent toutes les personnes qui sont passées avant ou après à risque. Et donc nous on a été rattrapés 17 jours après être passés à cet endroit-là. Et donc 2 semaines plus 2 semaines, ça fait 28. Il en restait 11 et on a dû passer 11 jours en quarantaine chez nous parce qu'un monsieur ou une dame, 5 jours après nous et qui avait le Covid-19, était passé.
Je rappelle, M. Spes, que vous êtes directeur de l'école française de Wuhan et c'est assez incroyable de vous écouter. Vu de France, on a même du mal à croire ce qu'on entend. Quelle est la recette ?
Ben, la recette, elle est extrême. Hein. La recette, c'est une fermeture stricte des frontières. Moi, ça fait un an et demi que je suis revenu. Et je ne peux pas vraiment repartir, sauf si je n'ai pas l'intention de revenir, en fait. Je ne peux pas rentrer en France parce que rentrer en France m'imposerait une quarantaine de 6 semaines. 2 semaines dans la ville d'arrivée, qui pourrait être Shanghai ou Canton, en chambre d'hôtel, donc quarantaine stricte, hein, enfermée pendant 14 jours dans une chambre d'hôtel. Ensuite, il faudrait que je rejoigne Wuhan où une autre semaine stricte en chambre d'hôtel m'attendrait. Et ensuite, il faudrait que je me confine moi-même 3 semaines chez moi.
Vous aviez été rapatrié en France en 2020 et vous avez fait le choix de revenir à Wuhan. Pourquoi ? Vous auriez pu rester en France ?
Oui, j'aurais pu rester en France à ce moment-là. Après, j'avais un contrat de travail, j'avais des élèves qui comptaient sur mon retour, j'avais des familles qui comptaient sur mon retour. On avait une école à sauver. Pour l'instant, on l'a sauvée. Alors, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, loin de là. Et puis, aujourd'hui, vous savez... Le fait d'être revenu, c'était un choix, mais aujourd'hui, le fait de rester, c'est aussi le fait de protéger quelque part ma famille, protéger ma fille en lui offrant une scolarité quasiment normale, en protéger ma famille en lui offrant une vie quasiment normale. Vous savez, on va au restaurant, on va faire du sport, on va à la piscine, on se promène, on voyage dans le pays. Alors, heureusement, la Chine est un grand pays, donc on a beaucoup de choses à voir. Mais on vit quasiment normalement ici. Donc retourner en France, ça voudrait dire accepter les fermetures de classe, accepter les arrêts de travail, accepter tout ce que vous vivez, vous, au quotidien. Et franchement, ça ne fait pas rêver.
Ça ne fait pas rêver. Voilà ce que dit ce Français qui vit à Wuhan. Ça ne fait pas rêver à propos de la France. Bonjour Stéphane Pambrin.
Oui, bonjour.
Et vous êtes le correspondant de RTL en Chine. Alors, on vient d'entendre ce témoignage. Le retour à la normale, nous dit Stéphane Spes, donc, qui vit à Wuhan. Est-ce que c'est pareil dans tout le pays ?
Non, évidemment, hein, c'est pas pareil dans tout le pays. J'ai fait les calculs. Actuellement, en Chine, il y a près de 60 millions de personnes, hein, 60 millions qui sont confinés chez eux. Ce sont des mesures extrêmement strictes, puisque c'est ce qu'a connu Wuhan pendant ces plus de 70 jours, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont enfermés chez eux, que la nourriture est livrée dans les résidences par des comités de quartier, hein, qui sont des volontaires du Parti communiste, et eux surveillent que personne ne sorte. Si on sort de chez soi, on risque 10 jours de prison. Si on viole donc ce confinement. Donc c'est difficile de dire que tout va bien. C'est une vie effectivement sous surveillance. Après, tout le monde croise les doigts ici en Chine pour être sûr que dans sa ville, dans sa province, eh bien, il n'y aura pas de cas, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de bulles sanitaires, hein, qui se mettent en place en Chine. J'étais à Wuhan il y a exactement un an, et donc c'est vrai qu'on parlait du paradoxe de Wuhan, puisque c'était une des villes qui avait vraiment retrouvé une vie d'avant. Après, il y a eu quelques cas, donc la ville s'est refermée. fermée, mais tout autour de Wuhan, des villes comme Zhangzhou, comme Xi'an actuellement, sont complètement confinées. Les gens sont enfermés chez eux, les écoles sont fermées. Donc pour eux, la vie n'est pas normale, n'est pas comme avant. Et Pékin, elle, qui n'a pas connu de cas depuis 3 semaines déjà, donc on pourrait se sentir protégé, mais Pékin, c'est une espèce de forteresse et plus personne ne peut venir de ces provinces où il y a quelques cas. Donc c'est ça la politique zéro Covid. Hein. Effectivement, quand tout va bien, on peut aller au restaurant, faire du sport, les écoles sont ouvertes, mais au moindre cas, dans un pays 1,5 milliard d'habitants, ça va quand même assez vite, au moindre cas, tout se referme et ça peut aller très très vite.
Vous l'avez dit, c'est la stratégie zéro Covid. La Chine doit être le dernier pays à tenter d'appliquer cette stratégie. Des villes entières se retrouvent encore régulièrement entièrement confinées.
Oui, c'est ça. Hein. Actuellement, donc, il y a la ville de Xi'an, la ville de Tianjin à côté de Pékin, Shenzhen qui est à la frontière de Hong Kong. Donc, c'est des grandes villes. Hein. Comme je le disais, ça représente plus de 60 millions de personnes qui sont confinées. Alors, c'est l'hiver actuellement dans le nord de la Chine, donc ils sont beaucoup plus attentifs. Il y a aussi les Jeux Olympiques à Pékin qui commencent le 4 février, hein, qui font que les autorités sont particulièrement sensibles aux différents cas. Mais l'an dernier, on a eu comme ça 3-4 fois l'alerte à Pékin.
Les gens acceptent et tout le monde... ça. Hein, les gens acceptent ça sans broncher, j'allais dire. Mais c'est une culture, peut-être. Ils n'ont pas le choix, d'un autre côté.
Voilà, ils n'ont pas le choix. Comme expliquait un médecin qui travaille à Wuhan, justement, c'est vrai que les Chinois sont des gens très disciplinés. Et s'ils ne le sont pas, tout peut être fait pour les rendre disciplinés, justement.
Oui, 10 jours de prison, effectivement, si tu sors de chez soi, si tu portes prison, mal ton masque, ça fait réfléchir.
Mais enfin, avec toute réserve, bien sûr, par rapport à ce qu'on vit, nous. Mais ici, en France ou en Europe, les gens acceptent finalement plutôt bien dans l'ensemble, la majorité.
Oui. Mais il n'y a pas des sanctions de ce type.
Ce que je disais, toute mesure gardée, bien sûr.
Merci en tout cas de ce témoignage. Merci. Et je ne sais pas si on va partir tout de suite pour la Chine, mais on va partir pour les auditeurs qui vont nous donner leur avis sur tout ce dont nous avons parlé depuis 12h30. Il est déjà 13h. RTL Midi.